Chapitre 53. Ainsi débutèrent des jours grisants remplis de clichés. Elle se sentait pleinement vivante. Son cœur battait plus vite quand il arrivait, et chaque matin était pour elle comme la découverte d'un cadeau. Elle riait, croisait les jambes, roulait légèrement ses hanches avec une conscience plus aiguë d'elle-même. Sa chemise de nuit sentait l'eau de Cologne d'Obinze, un léger mélange d'agrumes et de bois, car elle restait sans la laver aussi longtemps qu'elle le pouvait, et elle retardait le moment de nettoyer une trace de crème pour les mains qu'il avait laissée sur son lavabo. Après l'amour, elle ne touchait pas à l'oreiller creusé là où sa tête avait reposé. Il se tenait souvent sur sa véranda et regardait les pans sur le toit de la maison abandonnée, glissant de temps en temps leurs mains l'une dans l'autre. Et elle pensait à la prochaine fois et à la suivante, où il recommencerait. C'était ça l'amour, l'impatience du lendemain. Était-ce ce qu'elle ressentait quand elle était adolescente? Les émotions qu'elle éprouvait lui paraissaient absurdes. Elle s'inquiétait quand il ne répondait pas dans la minute à ses textos. Elle s'assombrissait en songeant à son passé. « Tu es le grand amour de ma vie », lui disait-il, et elle le croyait, mais était malgré tout jalouse de ces femmes qu'il avait aimées même fugitivement, de ces femmes qui avaient occupé une place dans ses pensées. Elle était même jalouse des femmes à qui il plaisait, imaginant le succès à la gauche d'un bel homme, riche de surcroît. La première fois qu'elle le présenta à la gracieuse émaillée, dans sa jupe moulante et ses chaussures à plateforme, elle réprima son agacement, parce qu'elle vit dans le regard appréciateur de Zémaillé le regard de convoitise de toutes les femmes de Lagos. C'était une jalousie provoquée par son imagination. Il ne faisait rien pour y contribuer. Il était présent et laissait voir clairement ses sentiments. Elle s'émerveillait de l'intensité, de l'attention qu'il mettait à l'écouter. Il se souvenait de tout ce qu'elle lui disait. C'était la première fois que cela lui arrivait, d'être réellement écouté. Et il lui fut encore plus précieux. Chaque fois qu'il raccrochait, à la fin d'une conversation téléphonique, elle se sentait prise de panique. C'était parfaitement absurde. Leur amour avait été beaucoup moins mélodramatique lorsqu'ils étaient jeunes. Ou peut-être était-ce à cause des circonstances. Il y avait maintenant, menaçant, ce mariage dont il ne parlait jamais. Il disait parfois « Je ne pourrai pas venir dimanche avant le milieu de l'après-midi » ou « Il faut que je parte tôt aujourd'hui ». Des empêchements qu'elle savait venir de sa femme, mais il n'en parlait pas davantage. Il n'essayait pas d'en parler, et elle ne voulait pas en parler, ou elle se disait qu'elle ne le voulait pas. Elle s'étonnait qu'il l'emmène aussi ouvertement déjeuner ou dîner dans son club privé où le serveur l'appelait « Madame », imaginant peut-être qu'elle était sa femme. Qu'il s'attarde avec elle jusqu'à minuit passé et ne prenne jamais de douche après qu'ils avaient fait l'amour. Qu'il rentre chez lui la peau imprégnée de son odeur et de son parfum. Il était déterminé à donner autant de dignité que possible à leur relation, à prétendre qu'il ne se cachait pas alors qu'il le faisait, naturellement. Il lui dit une fois de façon laconique, alors qu'ils étaient enlacés sur son lit dans la lumière indistincte de la fin de journée, « Je peux rester toute la nuit. J'aimerais rester. » Elle refusa net. Elle ne voulait pas prendre l'habitude de se réveiller à côté de lui. Elle ne voulait pas penser à la raison qui lui permettait de rester cette nuit-là. La réalité de son mariage planait toujours au-dessus d'eux. Jamais mentionnée, jamais matérialisée. Jusqu'à ce soir où elle n'eut pas envie de dîner dehors. Il dit avec entrain « Tu as des spaghettis et des oignons. Je fais la cuisine ? Tant que ça ne me fait pas mal à l'estomac. » Il rit. « Faire la cuisine me manque. Je ne peux pas cuisiner à la maison. » Et à cet instant, sa femme devint une sombre présence fantomatique dans la pièce. Elle était palpable et menaçante, comme elle ne l'avait jamais été quand il disait « Je ne pourrai pas venir dimanche avant le milieu de l'après-midi » ou « Il faut que je parte tôt aujourd'hui. » Elle se détourna et ouvrit son ordinateur pour consulter son blog. Un brasier s'était allumé au plus profond d'elle-même. Il comprit la soudaine importance des paroles qu'il venait de prononcer, car il s'approcha et se tint près d'elle. Cosy n'a jamais aimé que je fasse la cuisine. Elle a des idées très conventionnelles et simplistes sur le rôle d'une épouse. et elle a pensé que mon désir de faire la cuisine était une critique, ce qui m'a semblé stupide. J'y ai donc renoncé, juste pour avoir la paix. Je fais des omelettes, pas plus. Et nous prétendons que ma soupe d'onougbou n'est pas meilleure que la sienne. Il y a beaucoup de simulacres dans mon mariage, Ifem. Il se tut un instant. Je l'ai épousé quand je me sentais vulnérable. J'ai connu de grands bouleversements dans ma vie à cette époque. Elle dit, le dos tourné, « Obinze, s'il te plaît, fais les spaghettis. » Je me sens très responsable de Cossier, c'est tout ce que je sens. Et je veux que tu le saches. Il l'obligea doucement à se tourner vers lui, la tenant par les épaules. Il semblait vouloir lui dire autre chose, mais s'attendait à ce qu'elle l'aide, ce qui suscita chez elle une nouvelle vague d'irritation. Elle retourna à son ordinateur, étranglée par une rage de tout casser, de taillader, de brûler. « Je vais dîner demain avec Tunde Razak, » dit-elle. « Pourquoi ? Parce que j'en ai envie ? Tu as dit l'autre jour que tu n'irais pas. Que se passe-t-il quand tu rentres chez toi et que tu vas rejoindre ta femme au lit ? » demanda-t-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. Quelque chose s'était brisé entre eux. « Je crois que tu devrais partir, » dit-elle. « Non ! Obinze, je t'en prie, va-t'en. » Il refusa de partir, et plus tard, elle en fut heureuse. Il prépara des spaghettis, et elle les repoussa sur le bord de son assiette, la gorge sèche, sans appétit. « Je ne te demanderai jamais rien. Je suis une femme adulte et je connaissais ta situation quand je me suis engagée dans cette histoire. S'il te plaît, ne parle pas ainsi, » dit-il. « Cela me fait peur. J'ai l'impression d'être sans importance. Il ne s'agit pas de toi. Je sais que c'est la seule manière dont tu puisses garder un peu de dignité. » Elle le regarda, et même son attitude réfléchie commença à l'irriter. « Je t'aime, Ifem. Nous nous aimons, » dit-il. Il était au bord des larmes. Elle se mit à pleurer, elle aussi, des sanglots incontrôlés. Plus tard, ils restèrent étendus dans le lit, et l'air était tellement immobile et silencieux qu'on entendait les gargouillements de l'estomac d'Obinze. « C'est mon estomac ou le tien ? » demanda-t-il en riant. « Bien sûr que c'est le tien. Tu te souviens de la première fois où nous avons fait l'amour ? Juste avant, tu m'avais massé en me marchant dessus. J'ai adoré. Je ne peux plus le faire maintenant. Je suis trop grosse. Arrête. » Finalement, il se leva et enfila son pantalon, d'un mouvement lent et réticent. « Je ne peux pas venir demain, Ifem. Il faut que j'emmène ma fille. » Elle l'interrompit. « Très bien. Vendredi, je vais à Abuja. » « Oui, tu l'as dit. » Elle essayait de repousser le sentiment d'abandon qui menaçait. Il la submergerait dès qu'il serait parti et qu'elle entendrait la porte se refermer. « Viens avec moi, » dit-il. « Comment ? » ?»« Viens avec moi à Abuja. Je n'ai que 2 réunions et nous pourrons rester le week-end. Cela nous fera du bien d'être dans un endroit différent et de parler. Et tu n'es jamais allé à Abuja. Je peux réserver des chambres d'hôtel séparées si tu veux. Dis oui, je t'en prie. Oui, dit-elle. Après son départ, elle se permit une chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle regarda les photos de Cossi sur Facebook. Elle était d'une beauté étonnante, avec ses pommettes hautes, sa peau sans défaut, ses courbes féminines parfaites. Quand elle vit une photo prise sous un angle peu flatteur, elle s'y attarda un instant avec un malin plaisir. Elle était dans le salon de coiffure quand il lui envoya un texto. « Je regrette Ifem, mais je crois qu'il vaut mieux que j'aille seule à Abuja. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je t'aime. » Elle lut le texto et les doigts tremblants lui répondit en 2 mots, « sale dégonflée ». Puis elle se tourna vers la coiffeuse. « Vous allez me faire un brushing avec cette brosse ? Vous plaisantez ? Qu'est-ce que vous avez dans la cervelle ?» La coiffeuse eut l'air surpris. « Tante, je suis désolée, mais c'est celle que j'ai déjà utilisée pour vos cheveux ?» Quand Ifemelu pénétra en voiture dans sa résidence, elle vit la Range Rover d'Obinze garée devant chez elle. Il la suivit à l'étage. « Ifem, s'il te plaît, il faut que tu comprennes, je pense que tout a été un peu trop vite entre nous, et je veux prendre un peu de temps pour penser à l'avenir. »«
Un peu trop vite ?»
répéta-t-elle.
« Pas très original ? Cela ne te ressemble pas du tout. »«
Tu es la femme que j'aime. Rien ne me fera changer. Mais j'ai un sentiment de responsabilité face à ce que je dois faire. » Elle s'écarta de lui, du son rauque de sa voix, de la vaine inconsistance de ses paroles. Que signifiait un sentiment de responsabilité face à ce que je dois faire? Voulait-il dire qu'il avait l'intention de continuer à la voir tout en restant marié? Voulait-il dire qu'il ne pouvait plus continuer à la voir? Il communiquait clairement quand il le voulait, mais à présent il se cachait derrière des mots imprécis.
« Que veux-tu dire ? »
demanda-t-elle.
« Qu'est-ce que tu essayes de me dire ?»
Comme il restait silencieux, elle dit
« Va au diable !»
Et elle rentra chez elle et ferma la porte à clé. Par la fenêtre, elle regarda sa Range Rover disparaître au tournant de la rue.